Rebondir.
L'instant coaching avec Yapuka.
Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Jérôme Fouque. Vous êtes coach pour Yapuka, merci d'être avec moi.
Je vous en prie, un plaisir.
Alors qu'on soit en poste depuis longtemps ou alors en recherche d'emploi, on se pose très souvent la question de son employabilité. Alors en plus avec l'âge avançant, on se dit, est-ce que mon profil va intéresser des employeurs ? Alors bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, on va essayer de vous aider, ceux qui nous regardent, à booster votre employabilité. Alors pour commencer, Jérôme, vous, alors déjà je vais situer, vous avez été pendant longtemps DG d'une grosse boîte, vous avez fait beaucoup de recrutement, donc vous savez en gros ce qui peut intéresser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour intéresser un futur recruteur.
Est-ce que je sais ? Oui, en tout cas j'ai pratiqué, j'ai dû recruter en 15-20 ans, je ne sais pas, 200-300 personnes, donc j'ai vu passer 2000-3000 CV, donc je ne suis pas un sachant, mais j'ai pratiqué, donc j'ai pas mal de choses à présenter. Ouais.
Donc quand on commence à se poser des questions sur son employabilité, la première étape peut-être c'est de faire un bilan de compétences, enfin de savoir au moins quelles sont ses compétences.
Moi je ferais un peu le travail à l'envers, qui est de dire, un employeur qu'est-ce qu'il fait ? Il a un besoin, donc il a un besoin dans sa boîte, il a besoin de trouver un développeur, un business developer, un project manager. Donc il a dans sa tête un besoin à résoudre, et il va faire un job description, avec dans ce job description des hard skills, et les soft skills. Et tout l'enjeu de l'employabilité, c'est de dire, ok, j'ai un employeur qui s'est fait son job desk, et est-ce que moi je suis capable d'aller matcher les attentes de l'employeur avec ce que j'ai ? Donc, se mettre dans la peau de l'employeur qui, lui, a des besoins à répondre. Donc pour ça, effectivement, il faut se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux apporter dans l'escarcelle. Il y a plusieurs façons de le faire, et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est de comprendre à travers l'expérience professionnel, à travers la formation, à travers les hobbies, donc les activités, et même à travers la vie, ce que le candidat peut apporter, et en termes de hard skills, et en termes de soft skills. Et moi, ce qui m'importait, ce qui m'importe toujours aussi, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a une cohérence dans le parcours ? Est-ce que je vois quelqu'un qui a une idée ? On peut changer de parcours, c'est pas un problème, on peut changer de boîte, mais est-ce qu'il y a un fil directeur qui va matcher avec mes problématiques d'employeur et donc de répondre à un besoin d'un poste pur et dur.
Oui, donc il faut réussir à un peu faire un travail sur soi-même pour faire matcher nos compétences et un peu notre savoir-faire et savoir-être personnel et professionnel avec le métier recherché.
Absolument, si vous avez parlé de matching, c'est exactement ça. Et donc vous avez des soft skills, donc au début quand vous sortez de l'école, vous avez plutôt des soft skills que des hard skills parce que vous n'avez pas appris grand-chose, mais moi, quand j'ai recruté des juniors, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'ils avaient fait ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme hobbies ? Qu'est-ce qu'ils font du sport ? Est-ce qu'ils font de la lecture ? Et moi, ce que j'ai toujours essayé de trouver, c'est trouver à travers ces éléments d'activité, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Si je prends mon exemple, moi, dans ma vie, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup vécu à la campagne. Donc, je me suis beaucoup promené, j'ai fait plein de choses, et je pense que ça a développé chez moi un goût pour l'autonomie et la créativité. Donc, c'est pas ma formation, mon expérience, c'est qu'est-ce que je suis ? Et l'autonomie et la créativité, ça peut être un des soft skills demandés par l'entreprise. Donc toute l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que je peux mettre en avant ? Donc moi, mon conseil, c'est d'essayer de vous trouver 3-4 hard skills et 3-4 soft skills, et après d'avoir, pas juste de dire, je pense être, avoir l'esprit d'entreprise, ou je suis persévérant. C'est-à-dire, comment je peux vous expliquer que je suis persévérant ? Donc si je voulais être, moi par exemple, moi j'ai fait 5 marathons, j'ai fait 100 km, donc je pense pouvoir vous dire que tout ça, c'est de la persévérance.
Ah oui, vous êtes persévérant.
Quand je parle d'empathie, j'ai des histoires à raconter. Le vrai besoin qu'a un employeur, c'est pas juste de lire empathique, c'est d'entreprendre, autonomie, gestion de projet, c'est comment est-ce que je peux raconter une histoire autour de ça pour intéresser l'employeur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un entretien, c'est les deux sens. C'est-à-dire que vous allez me recruter et moi, j'ai besoin de recruter. Et donc, le pire, c'est qu'il n'y ait pas d'alignement entre les attentes de l'employeur et celles du candidat, et inversement, le candidat qui va dans une boîte où il va pas être aligné en termes d'attentes, en termes de besoins, en termes de culture d'entreprise, c'est évident que 3 mois, 6 mois après, ça clash. Donc mon autre enseignement, c'est essayer de bien poser des questions sur c'est quoi la culture d'entreprise, c'est quoi la personnalité de votre interlocuteur, parce que vous allez passer quand même globalement 10 ou 12 heures éveillés avec vous, et qu'il faut qu'on s'entende. Et que le pire des... Moi, ça m'est arrivé de ne pas prendre des bons jobs, parce que globalement, je n'avais pas aligné, en fait, les valeurs de l'entreprise. Donc oui, effectivement, il y a une nécessité à se poser des questions sur qu'est-ce que je peux apporter comme Alors, en marketing, on appelle ça des USP, des Unique Selling Points. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Et ça, c'est pas la peine non plus d'en mettre des tartines. Hein. Donc, il y a 3-4 trucs qui vont vous définir en termes de soft skills. Peut-être un peu plus en termes de hard skills, mais sur votre interlocuteur, il peut pas en mémoriser 40. Donc, 3-4 faits marquants sur ce que vous savez faire, 3-4 faits marquants sur ce que vous êtes, et puis après, provoquer un entretien. Moi, si je prends mon cas, il y a plein de jobs que j'ai eus en y allant sans y croire vraiment. Mon expérience de près de 17 ans dans le groupe Expedia, en fait, je l'ai eu parce que je suis allé postuler à deux jobs qui ne m'intéressaient pas. Donc j'y suis allé, le premier ne me paraissait pas pertinent en termes d'approche et timing, le deuxième ne m'intéressait pas. Mais comme je suis plutôt assez bon en bizdev, je leur ai dit, mais si vous cherchez un dirco, on peut peut-être commencer à discuter. Et moi, encore, après, j'ai passé 18 ans d'une vie incroyable. Donc, moi, mon conseil, c'est aller provoquer des entretiens, provoquer des rendez-vous. Ça peut pas, ou pas marcher, mais c'est en poussant un peu votre chance que vous allez probablement trouver le bon job. Et puis, si ça ne doit pas se faire, c'est pas très grave. Si vraiment vous sortez en disant non, je le sens pas, il y a plein de boîtes. Si vous avez un doute, il ne faut pas y aller. Franchement, un autre enseignement que je peux vous donner, c'est si vous avez un doute sur la boîte, sur la culture, sur l'environnement, sur le métier, vous ne forcez pas à y aller. Parce que c'est évident que 3 mois après, 6 mois après, boum, ça ne marchera plus.
Avant l'entretien, comment on peut mettre en avant ses compétences? C'est sur son CV maintenant? C'est sur Internet qu'il faut le faire?
Pour moi, il faut le faire sur les deux. Votre CV ou votre profil LinkedIn, c'est une vitrine. Donc c'est comme quand on passait devant un magasin, il faut qu'il y ait 3-4 trucs qui attirent l'œil. Donc il y a principalement sur... Alors je vais parler des CV, puis un CV, il y a quelques règles d'or. C'est, moi j'aime bien mettre une photo, parce que j'aime bien savoir à qui je vais... même si aujourd'hui il y a des débats sur la photo, pas photo, mais je pense plutôt qu'une photo est favorable. Il faut un titre, un tagline, comme la presse. Alors, il faut un bon titre qui accroche, qui va dire, ben voilà, moi je sais faire ça et je vais faire ça. Donc dans un CV, il faut un hook. Il faut moi, quand je lisais des CV qui m'intéressaient, je passais max une minute. Parfois, ils sortaient au bout de 30 secondes, de 15 secondes, mais sinon, je ne passais pas beaucoup plus de minutes. Donc, une vraie accroche qui vous dit, OK, ben, je veux passer un peu plus de temps dans cette vitrine. Et pareil, mettre en avant globalement votre expérience, votre formation et vos hobbies. Et essayer de... Moi, j'ai toujours trouvé les CV qui me permettaient de rester un peu plus de temps, c'est ceux sur lesquels il y avait à la fois qu'est-ce que j'ai fait? Quelle était ma problématique? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pour quel résultat? Donc vraiment, se dire, j'ai été confronté à un problème de repositionnement de mon produit, j'ai eu telle décision et pour tel résultat. Donc le maximum d'histoire, même sur un CV.
On n'est pas obligé d'être exhaustif, il ne faut pas tout mettre.
Non, non, moi, ce que vous mettez en avant corresponde aux skills qui sont les vôtres. Et là encore, est-ce que ça va correspondre aux attentes de l'employeur? Peut-être. Si c'est le cas, tant mieux, on fera une longue vie, puis c'est prêt, ça sera un autre employeur. Donc, expérience, formation, et dans les hobbies, il y a toujours des hobbies qui marchent. Alors, moi, je suis plutôt sportif, donc j'ai mis plein de trucs, mais si vous mettez... j'ai fait des marathons, j'ai fait 3 marathons. Et puis j'ai joué au rugby longtemps, j'étais trésorier dans l'association. Donc raconte, parce qu'en fait, tous ces trucs-là vont vous permettre d'accrocher votre interlocuteur et de partir peut-être sur une autre discussion que purement business. Donc, un truc clair, rapide à lire, agréable.
Pas trop de trucs bateau, vous l'avez dit tout à l'heure, ça sert à rien de rester un peu générique.
Il faut vraiment être très spécifique, parce que si votre spécifique plaît, vous irez plus loin. Votre CV, c'est votre vitrine pour avoir un entretien, pas plus, pour passer les étapes supplémentaires. Donc, il faut qu'il soit agréable à lire, concis, avec des blocs sur... voilà ce que j'ai fait, voilà ma formation, voilà mes hobbies, et en haut, véritablement, une tagline qui vous dit, voilà, je postule chez vous parce que je veux faire du développement informatique dans tel type de langage. Bon. Ben, s'il y a ce besoin, ça va marcher. Si vous ne maîtrisez pas le langage qui est demandé, c'est pas grave, vous irez le faire ailleurs. Donc, il y a une forme qui est importante. Sur LinkedIn, c'est un petit peu différent parce que c'est comme majoritairement des systèmes qui lisent les... Donc, c'est pas de garcisse de style. Quand vous avez défini vos USP, donc vos très caractéristiques, c'est pas tellement gênant de les répéter 3, 4, 5, 6 fois. Donc c'est pas ce qu'on apprend à l'école où il faut pas faire de répétition. Bon, moi j'avais, si vous regardez mon profil LinkedIn, il y a business développement marqué à peu près 7 fois. Parce qu'en fait le système cherche, ils ont des mots-clés en entrée, donc plus il y a le mot qui l'intéresse, plus vous remontez. Donc il y a une différence entre LinkedIn et le CV, ils sont pas lus de la même façon. ils peuvent tous être de façon automatique, mais LinkedIn l'est de façon systématique. Donc il y a une répétition de vos mots-clés qui est déterminante. Donc il faut bien se faire poser la question, et je reviens un petit peu sur l'état des lieux, c'est quoi mes atouts? Qu'est-ce que je mets en avant? Et dans LinkedIn, il ne faut pas hésiter à les répéter, même si ça ne correspond pas aux standards qu'on apprend en cours de français.
Et on peut mettre un peu plus de détails sur LinkedIn?
Ouais, LinkedIn, pour moi, un bon CV, un CV d'un junior, c'est une page. Moi, je ne suis plus tellement junior, j'essaie de le faire tenir en une page, parfois deux. Mais même chose, un CV, c'est qu'une vitrine qui est suffisamment attractive pour dire « Ok, je veux aller un petit peu plus loin avec cette personne-là ». LinkedIn, ça peut être plus long, parce que de facto, c'est lu par des systèmes. Et la logique de LinkedIn, c'est que les recruteurs ont des mots-clés, cherchent des mots-clés, et s'ils les trouvent de façon récurrente, aux bons endroits, donc il y a des blocs dans LinkedIn où les profils sont structurés, donc on peut mettre plusieurs fois les mêmes mots dans des blocs différents. Et après, il faut provoquer l'entretien, qui est une autre phase du recrutement.
En restant un peu sur LinkedIn, souvent, quand on parle d'employabilité, on parle de réseau. Est-ce qu'il est important d'avoir plein de contacts sur LinkedIn? Est-ce qu'il faut les sélectionner?
Pour moi, le réseau, il est clé, LinkedIn ou pas. La grande majorité des offres sont souvent sur un marché gris, donc elles sont pas officielles. Donc oui, le réseau, il est clé. Donc j'encourage tout le monde à développer son réseau. Puis après, c'est sympa, si vous rencontrez des gens qui sont plaisants. Sur LinkedIn, je pense qu'il faut avoir un réseau cohérent. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir des gens qui n'ont rien à voir avec votre cœur de métier. Et après, je pense que ce qui est aussi important, c'est de démontrer comment on peut démontrer qu'on est intéressé par un sujet qui peut être de la promotion immobilière, en fonction des sociétés que vous suivez sur LinkedIn. Donc tout ça, c'est des éléments de cohérence. C'est-à-dire, si moi, je veux bosser dans le domaine de... par exemple, la promotion immobilière, suivre des boîtes qui font de la promotion, ça rend de la pertinence au profil. Donc, je n'ai pas de réponse à ce qu'il faut 500 profils ou 2500 sur son LinkedIn. Je pense que la pertinence, ça ne sert à rien d'avoir des gens qui sont en troisième niveau, que vous ne connaissez pas, qui ne vous apportent rien. En revanche, LinkedIn, c'est aussi un système où il faut être actif. C'est-à-dire que, tout comme le réseau physique, si vous voulez être plus vu, plus remonté, il faut communiquer, il faut faire des posts, il faut réagir. Vos propres posts sont plus valorisés que quand vous juste relayez une information. Mais l'activité sur LinkedIn est un vecteur d'employabilité.
Et encore une fois, ça permet de rester à jour et du coup d'être plus pertinent en entretien.
L'élément clé, c'est aussi de dire, quand je vais voir la boîte X, Y ou Z, qu'est-ce que je sais de la boîte? C'est-à-dire que moi, quand j'avais des entretiens avec des gens qui ne connaissaient ni ma boîte, ni ce que je faisais, non pas par ego, mais je me disais, mais attendez, vous rencontrez, c'est le dernier entretien pour rentrer dans ma boîte, vous ne savez pas quel est mon job, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Donc, learning, c'est renseignez-vous sur la boîte, renseignez-vous sur la personne. Il n'y a aucun problème à aller voir le profil LinkedIn de la personne que vous avez rencontrée, poser des questions, mais soyez informé de ce qui se passe, des actualités, soyez informé des choses de l'industrie dans laquelle vous allez postuler, parce que tout ça, c'est ce qui va rendre de la crédibilité à votre discours.
Vous qui avez été de l'autre côté, à savoir plutôt recruter, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il ne faut pas avoir trop de pression quand on va en entretien parce que l'employeur a quasiment autant de pression que le candidat?
Il y a autant de chances de se planter. Enfin, il y a des mauvais castings des deux côtés. C'est-à-dire que moi, en tant qu'employeur, j'ai fait des mauvais castings alors que je me souviens d'un mauvais casting où on avait vu le mec. Il avait vu voir 5 personnes plus un cabinet et au bout de 6 mois, c'était un échec total. Donc il y a même plus à perdre côté employeur. Enfin, si on se met, il y a beaucoup à perdre côté employeur, parce que ça veut dire que vous avez un job. Donc, qui dit job dit engagement, dit business plan. Donc, si vous n'avez pas la ressource, vous ne délivrez pas. Alors que pour un collaborateur, il se dit, moi, ça ne me va pas, je m'arrête, je suis mon préavis, puis j'en trouve un autre. Donc, il ne faut pas oublier que l'employeur, il a aussi un gros enjeu de trouver la bonne personne au bon moment pour le bon job. Après, comment est-ce qu'on se... Moi, je trouve que c'est... J'ai toujours essayé de voir les entretiens comme étant des échanges constructifs. C'est pas une... je suis peut-être pas non plus un académicien de l'entretien, mais j'essaie plutôt d'avoir des échanges pour comprendre la vraie personnalité. Donc, un conseil, c'est allez-y, plus une logique de j'échange, je m'intéresse, je pose des questions. Moi, un collègue qui ne me posait pas de questions, globalement, je ne le prenais pas. Et c'est pas je suis un pauvre candidat qui essaie malheureusement de me faire prendre le job, c'est je suis un candidat, j'ai de la valeur, je vais expliquer ce que je sais faire, ça peut matcher ou ça peut pas matcher, Et vous pouvez dire, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'arrivait dans l'instant de dire, franchement, la culture de votre boîte n'est pas compatible avec mon ADN, donc on va s'arrêter là. Donc c'est, après chacun plus ou moins émotif, mais en tout cas, y arriver en disant, il y a des enjeux d'importance de taille équivalente chez l'employeur et chez le candidat, c'est hyper simple.
Oui, donc la clé, c'est vraiment de réussir à trouver un poste qui soit vraiment en concordance avec ce qu'on sait faire.
Ça ne sert à rien de se survendre. Si vous vous survendez, bah, globalement, 3 mois après, vous allez sortir parce que vous n'êtes pas en mesure de faire. Donc, moi, j'ai utilisé un terme qui est hyper important, qui est l'alignement. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que ce que vous allez faire pendant 10 heures par jour, 12 heures par jour, est aligné par rapport à ce que vous aimez faire, les environnements, la culture de la boîte, les personnes à qui vous allez le faire. Et moi, c'est, quand je bosse pour Yapuka, je dis vraiment, là, c'est peut-être pas très, c'est un peu conceptuel pour quelqu'un qui a 20, 21 ans, mais posez-vous des questions sur ce qui fait que vous êtes bien dans un job et assurez-vous que vous êtes aligné. Alors, vous ne savez pas forcément, mais il y a plein de choses que vous pouvez, vous aussi, dans votre réseau. Donc, vous pouvez aller poser des questions à des gens qui sont dans la boîte. Il y a des systèmes Glassdoor, c'est un super outil. Si vous regardez Glassdoor pour avoir la culture de la boîte, bah globalement, quand vous regardez le conseil dirigeant, il y a 3 sur 5, il ne faut pas y aller. C'est que c'est, bah, il y a un truc qui ne va pas très bien se passer. Donc, en tant que candidat, vous avez aussi plein de moyens pour aller estimer la valeur de la boîte. Donc, l'alignement sur est-ce que je fais ce qui m'intéresse ou pas. Est-ce que, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est un job d'équipe. Bah, faut que je trouve un job d'équipe. Si je suis plutôt, voilà, moi, si je prends mon cas, j'ai joué longtemps au rugby, donc je suis plutôt un mec d'équipe, même si je cours. Donc, j'ai toujours été bien dans les jobs plutôt où il y avait de la fédération, où il y avait de l'engagement, plutôt que des jobs individuels. Donc c'est ça qui est important. Moi, j'aime les choses qui vont vite, qui ont de la dynamique. Donc, j'ai plutôt dans des boîtes qui bougeaient plutôt plus vite que des grosses boîtes. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se poser des questions. C'est-à-dire, bah, voilà, le job idéal, il a ses attributs. Donc, moi, c'était plutôt voilà, la dynamique, du business développement, le travail en équipe, un peu de techno. Donc, j'essayais de me trouver des jobs dans ces combinaisons-là. Et puis après, il y avait la culture de la boîte, qui est aussi importante. Donc ça, c'était ce que je cherchais, les jobs sur lesquels il y avait, c'est un job unipersonnel, dans une boîte qui n'est pas, qui fait toute croissance de 2%, ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est se dire, dans quel job je peux me dire, je vais être bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quoi les attributs? Et se dire, ok, bah, je vais essayer de trouver les mêmes attributs dans la boîte.
Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, il vaut mieux, pour booster son employabilité, essayer d'être vraiment en cohérence avec son profil, que d'essayer d'avoir des nouvelles compétences pour...
Un employeur, il va vite comprendre, il va vite voir si ce que vous dites est pertinent. Parce qu'il va vous poser 2 questions. Si c'est son métier, il va vous poser 2 questions dans lesquelles... il va très vite comprendre. Moi, j'ai eu un des étudiants de Yapuka qui me dit « Mais comment est-ce que vous arrivez à savoir si le candidat raconte des histoires ou si c'est sincère ?» Je sais pas. Déjà, je regardais son profil. Le réseau, ça existe. Donc moi, je peux appeler des gens en disant « Tu connais ?» Moi, ça m'est arrivé de prendre des références en me disant « Tu le prends, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, être sincère, c'est important. Enfin, c'est ma vision de la vie, mais ça sert à rien de se présenter un profil qui n'est pas le vôtre, parce que vous êtes tordu, comme j'essaie de l'être, là, parce que vous n'allez pas vivre très longtemps comme ça. En revanche, si vous êtes bien à l'aise avec ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous donne du plaisir à faire, avec des gens où vous dites bon, « on va passer un temps agréable ensemble, comme on le passe », ben, c'est des choses, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut essayer d'aborder ces... Et donc, pour revenir un peu à des questions concrètes, c'est bien se connaître, bien connaître ses forces. Donc, moi, je reviens sur cette notion. Qu'est-ce qui vous fait que vous êtes unique? Connaître ses faiblesses aussi. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de honte à ne pas être idéal. Et se dire qu'il y a ces 2 morceaux de puzzle. Hein. C'est aussi simple que ça. Et un bon recruteur, il s'est fait un job desk. Il connaît les valeurs de sa boîte. Donc, il est assez à l'aise avec normalement les soft skills. Et après, sur les hard skills, il sait ce qu'il lui faut. Il dit, bah, je veux ça, ça et ça. Et il va aller chercher le bon profil. Donc, il y a énormément de boîtes, énormément de candidats. Le seul enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que les 2 morceaux de puzzle fonctionnent bien ensemble.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Rebondir. L'instant coaching avec Yapuka.